Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la méditation que nous avions commencée dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Nous avons médité plus particulièrement sur le verset 2 à 5. Je vous invite à lire à partir du verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, des prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Et j'aimerais rajouter ce que nous avions déjà lu dans Apocalypse 1, verset 1er, qui est le but de ce livre. Donc Apocalypse 1, 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Voilà, nous avons quelle gloire pour son serviteur Jean, de voir ce qu'il a vu, d'entendre ce qu'il a entendu. Nous en avions parlé alors qu'il était déporté sur cette petite île de Patmos, et à un âge avancé, on pense qu'il avait au moins 90 ans, et il a été utile pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu, et pour nous aussi qui sommes parvenus à la fin des siècles, nous avons ces écrits qui ont été inspirés à Jean sur cette île. Dieu a pu se servir de lui, malgré un état affaibli, l'âge qui était là, le prisonnier, disons, sur cette île, et il a pu recevoir ses révélations. Nous avons ici le dernier message que Dieu adresse à son Église et au reste de l'humanité, d'ailleurs, parce que Dieu ne s'adresse pas seulement qu'à l'Église, mais il s'adresse aussi au reste de l'humanité, parce que la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, dans la Bible, nous sommes tous concernés. Si quelqu'un n'est pas encore croyant au milieu de nous, eh bien, vous êtes concernés par la parole de Dieu, parce que Dieu s'adresse à toutes ses créatures. Que nous soyons chrétiens et que nous ne soyons pas encore chrétiens, eh bien Dieu, dans son amour et dans sa grâce, s'adresse à toutes les créatures. Tout ce qui a été dit dans la parole depuis le début eh bien, est comme condensé dans ce texte. Et nous le verrons, il y a quand même le caractère de Dieu qui est dedans, et je crois que le caractère de Dieu est imprimé tout au long de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ce caractère, ces attributs de Dieu, Dieu est avec sa parole, Dieu, Jésus est la parole. Il est incarné, il a été incarné sur la terre, mais c'est la parole, il est non seulement avec, mais il est la parole. Il y a son caractère, ses attributs, et bien dans cette parole, dans ces versets que nous lisons. Donc c'est comme un condensé dans ce dernier message adressé à l'Église et à l'humanité. Il y a eu un soin particulier à souligner la véracité de ces paroles qui sortent de la bouche même de Dieu. Pourquoi ? Eh bien, il y a tellement de soin à dire « Jean atteste, je vous atteste ces choses ». Pourquoi il y a tant de... pour attester la véracité des Écritures ? Eh bien, parce que nous avons un cœur naturel qui doute et qui est dans l'incrédulité. Et Dieu veut nous dire que ce qu'il dit, c'est vrai. Ce qu'il a prévu, c'est vrai. Ce qu'il a fait est vrai. C'est véritable. Et Dieu voudrait nous le communiquer encore ce matin. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, dans la parole, nous voyons que l'ennemi a essayé de semer le doute par rapport à la parole. Dans le jardin d'Éden, au chapitre 3 de la Genèse, au verset 1er, eh bien, le diable vient et il met en cause la parole, dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Il a mis en doute la parole. Et vous savez que si la parole est mise en doute, il n'y a plus rien qui tienne dans nos vies. Si l'Écriture, il y a du doute, de l'incrédulité, il n'y a aucune foi possible, aucun fondement possible sans l'Écriture, et le diable le sait bien, et il a mis en doute donc dès le début, et Dieu nous dit, il atteste ces choses que tu as vues, Jean, je les atteste, c'est la vérité. Alors, pourquoi pouvons-nous prendre au sérieux, j'allais dire, ces paroles prophétiques ? En ce qui concerne le retour prochain de Jésus. Pourquoi nous pouvons, mais alors sans aucune ombre d'un doute, prendre au sérieux ces paroles ? Eh bien, j'aimerais dire que tout ce que Dieu a prévu, tout ce que Dieu a prophétisé au travers de ses serviteurs, eh bien, concernant par exemple la première venue de Jésus, tout s'est réalisé à la lettre. Et nous avons des prophéties dans l'Ancien Testament, vous les connaissez, donc dans le psaume 22, dans Ésaïe 53, dans bien des passages, dans Genèse 3,15, il nous parle aussi de Jésus, de sa mort sur la croix, mais dans l'Écriture, eh bien, les prophéties se sont réalisées à la lettre. La croix a été prophétisée. Donc dans Genèse 3,15, dans Ésaïe 53, dans le psaume 22, la venue de Jésus a été prophétisée dans, par exemple, le prophète Michée. Vous prenez au chapitre 5 et au verset 1er, le prophète Michée donne des précisions sur la naissance de Jésus, sur la ville, il donne des précisions. Et comment ça s'est réalisé ? À la lettre. Tout ce que Dieu a inspiré aux prophètes s'est réalisé à la lettre. Quant à la première venue de Jésus, quant au sacrifice de Jésus sur la croix et bien d'autres choses, par exemple même pour Israël, quand nous voyons les prophéties qui ont été faites dans l'Ancien Testament concernant Israël, eh bien, ça s'est réalisé et c'est en train de se réaliser. Et Dieu continue son œuvre quand il dit que, eh bien, ce peuple serait déporté. Mais ça s'est passé, quand vous lisez l'Écriture, dans le livre du prophète Jérémie, ça s'est passé exactement comme Dieu l'a dit, quand il dira que le peuple sera dispersé sur toute la surface de la terre. Eh bien, pendant 19 siècles et quelques, le peuple d'Israël a été dispersé sur toute la terre. Et béni soit le Seigneur, parce qu'il a dit qu'un jour, ils retourneraient dans leur patrie, dans leur pays. Et ça s'est réalisé en mai 1948, l'État d'Israël a été proclamé. Tout ce que Dieu a dit, eh bien, c'est vérifié. Et quant au retour de Jésus, ça se réalisera de la même manière, à la lettre, tout ce que Dieu a prophétisé, ça va se passer. Et ça ne se passera pas comme on imagine, nous. Ça se passera exactement comme Dieu le dit dans sa parole. Et nous pouvons prendre verset par verset, tout ce qui est écrit va se réaliser. Nous pouvons prendre au sérieux l'Écriture. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Ne voulons pas qu'il y ait l'ombre d'un doute quant à la parole de Dieu, même si nous ne comprenons pas certains textes, ils sont vrais. Ils sont inspirés. Même si nous ne comprenons pas tout de l'Apocalypse, eh bien, je sais que ce que nous voyons, ce que nous lisons, va se réaliser. Concernant l'Église, mais concernant aussi l'humanité, ce monde, tout va se réaliser comme c'est écrit. Et concernant la seconde venue de Jésus, eh bien, ça va s'accomplir, comme nous l'avons dit, de la même manière. Jésus dira dans les Actes des Apôtres, avant de remonter au ciel, l'ange dira, mais de la même manière que vous avez vu Jésus s'en allant au ciel, il reviendra de la même manière. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder? Il reviendra de la même manière. Jésus revient bientôt. Jésus revient. Pour ceux qui l'attendent, pour ceux qui espèrent, pour ceux qui soupirent, Jésus revient bientôt. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des détracteurs lors de sa première venue, en particulier les pharisiens, qui mettaient en doute sa messianité, qui mettaient en doute, ils disaient, mais de Nazareth, il ne peut pas venir de prophète, etc. Il y a eu des détracteurs. Et dans la deuxième, pour sa seconde venue, la Bible nous dit qu'il y aura des moqueurs. Et ça, nous le trouvons dans 2 Pierre au chapitre 3 et au verset 3. « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disaient, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme le début, le commencement de la création. » Des moqueurs sont là et d'un revers de manche, ils essaient d'éliminer la promesse de Dieu, les prophéties, en disant, mais c'est pareil. Et certainement, aujourd'hui, il y en a encore. Ils disent, mais ça fait 2000 ans, tout est pareil, comme le commencement. Mais vous savez que ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Et pour... il y aura des moqueurs, mais il y aura également des gens qui ne se doutent de rien. Et là, j'aimerais attirer l'attention sur même les chrétiens. Il faut que ce soit vivace dans notre cœur. Il faut que le retour de Jésus soit constamment dans notre cœur, dans cette perspective-là. Je crois que ils ont compté combien de fois il est parlé du retour du Seigneur, mais c'est une quantité énorme dans le Nouveau Testament. Parlant de la venue de Jésus, la seconde venue, le retour, il y a une grande quantité de textes, de versets qui nous en parlent. Mais ils ne se doutent de rien. Donc, c'est-à-dire, il ne se prépare pas. Comme le dira Jésus, il en sera comme du temps de Noé ou du temps de Lot. Qu'est-ce qui se passait du temps de Noé et du temps de Lot? Vous le trouvez, je pense, dans Luc au chapitre 17 ou 21 aussi, mais dans Matthieu 24. Il est dit que du temps de Noé et de Lot, les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, se marier, marier leurs enfants. Que des choses légitimes. Mais sous-entendu, Jésus, quand il dit cela, il dit ne se préoccupez que de ça. Et il ne se préoccupait pas de ce que Jésus avait dit, de son retour, de sa seconde venue, donc du temps. Parce que à l'époque de Noé, la Bible nous dit que Noé était un prédicateur de la justice. Il, je ne sais pas comment il prêchait, mais bon, en tous les cas, en construisant l'arche, certainement, ceux qui venaient voir et qui le prenaient pour un fou, eh bien, Noé devait dire, mais c'est la vérité, l'eau va monter, il n'y avait jamais plu ni rien, hein, l'eau va monter et puis on prépare l'arche pour tous ceux qui veulent être sauvés. Imaginez les gens qui riaient, se moquaient, mais ce n'est pas possible, jamais une goutte d'eau. Et il était prédicateur de la justice, nous donne le témoignage du Nouveau Testament. Et à cette époque-là, les gens n'ont pas pris au sérieux, ils ne se sont certainement pas préparés, parce qu'il nous est dit que la porte était ouverte, et à un moment donné, Dieu ferma la porte. Et tous ceux qui se sont moqués, ont pris cela par dérision, ils sont restés. Et Noé et toute sa famille se sont sauvés. De même Lot, bon, nous connaissons bien les textes. Alors les choses c'est quand même étonnant. Les premiers chrétiens, vous savez que les premiers chrétiens étaient persuadés que Jésus allait revenir de leur vivant. Mais nous le trouvons, quand nous lisons, ils étaient persuadés que Jésus allait revenir, alors que la première église s'est constituée, ils étaient persuadés que Jésus allait revenir à ce moment-là. Et vous savez, je le dis, je m'inclus, nous nous incluons, ils étaient plus persuadés que nous que l'imminence du retour de Jésus. Ils étaient beaucoup plus persuadés. Pourquoi ? Eh bien parce que nous voyons que la perspective du retour de Jésus leur a donné un zèle incroyable, une consécration, un enthousiasme pour l'évangélisation, pour témoigner, pour prêcher, pour ouvrir des églises. Ils étaient vraiment, ils se disaient, mais Jésus va revenir, il faut que le maximum soit sauvé. Or nous n'avons pas la même perspective vivace du retour de Jésus. Parce que si on réfléchit un instant, que le Saint-Esprit nous fasse grâce, à vous et à moi, et qu'il mette cette pensée vivace. Imaginez, on se dit, mais nous, on est prêts. J'espère que nous sommes prêts, la plupart. Et si quelqu'un n'était pas prêt, qu'il se prépare ce matin, qu'il se donne au Seigneur. Mais nous sommes prêts. Si nous persévérons, nous sommes prêts. Mais combien vont rester dehors ? Vont rester quand Jésus va revenir ? Ils vont tomber sous le jugement. Donc, que le Saint-Esprit mette de plus en plus dans notre cœur la réalité, l'imminence du retour de Jésus, et que ce soit pour nous une perspective de vie, vivant par rapport au retour de Jésus. Au moins trois fois, le Seigneur dira, alors on ne sait plus qui parle. Il dit que l'ange parle, mais des fois c'est à la première personne, donc c'est Jésus qui parle. Jésus qui dit « je ». Je viens bientôt. C'est pas l'ange qui va venir nous chercher, c'est Jésus. Alors bien sûr, il y a l'ange qui annonce le message, mais c'est Jésus qui parle. Et il dit par trois fois au moins dans les versets que nous avons lus, et la fin que nous n'avons pas lue, nous le verrons dans un dernier volet, mais il dit « je viens bientôt ». Ça veut dire « je viens rapidement ». Il y a l'imminence de mon retour. Je viens en hâte, je viens d'une manière rapide, c'est le Seigneur qui parle, soudaine. Et Jésus dira qu'il reviendra dans Matthieu 24, il dira qu'il vient comme un voleur dans la nuit. Il dit ça de son retour, je viendrai comme un voleur dans la nuit. Et ça a été repris, il le dit même à l'église. À l'église de Sardes, dans Apocalypse 3:3, il dit « Si tu ne veilles pas, je viendrai te surprendre comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Donc il s'adresse à l'église de Sardes. Il vient bientôt, mais il vient d'une manière rapide, soudaine. Donc nous comprenons les uns et les autres que nous devons être prêts. Nous ne devons pas nous préparer et dire « bon, ben, on ne sait pas, peut-être c'est dans 20 ans, dans 30 ans. » Moi, je ne sais pas, ça peut être très très rapide. Et ce que nous voyons qui est en train de se mettre en place sur toute la surface de la Terre nous montre que nous sommes entrés dans une phase particulière. Là. Je ne sais pas plus de... Mais nous sommes entrés dans cette dernière phase. Alors je ne sais pas combien ça peut durer, personne ne le sait, ni le jour ni l'heure, mais nous sommes dans cette phase imminente du retour de Jésus. Alors il faut que nous soyons prêts. Dans le verset 10 et 11, il y a tout le message de Dieu, de l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, il y a un appel à la repentance, il y a un appel à un retour à Dieu. Que le message, la parole soit toujours efficace. Vous savez, le message des prophètes, bien sûr, je ne parle pas de concernant les derniers temps, mais souvent le message des prophètes était celui-ci, revenez à Dieu, abandonnez les idoles, abandonnez votre façon de le péché et revenez à Dieu. Ça a été le message principal des prophètes, appeler le peuple à revenir à Dieu. Pourquoi ? Parce que le peuple s'égare petit à petit. Il y a les coutumes des nations, il y a l'idolâtrie, il y a la culture ambiante. Et donc, les prophètes étaient là comme des sentinelles. Ils étaient là en disant au peuple, revenez à Dieu, vous êtes en train de vous écarter. Et vous savez, on s'écarte facilement. Même nous, d'ailleurs le Nouveau Testament, Jésus est venu, le premier message qu'il a donné, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Les apôtres, le jour de la Pentecôte, repentez-vous. Ça a été le même message. Paul a prêché aussi, repentez-vous, revenez à Dieu. Pourquoi ? Ben, près de Dieu, on est béni. On est béni près de Dieu. Pourquoi ? Parce que quand on s'éloigne du Seigneur en pensée, en action ou en parole, quand on s'éloigne du Seigneur, on est malheureux. Mais quand on vient près de Dieu, il nous bénit, c'est son désir de nous bénir. Et il veut nous avoir près de lui, il veut nous avoir avec lui, afin de nous bénir. Et là, dans ce texte que nous avons lu, à partir du verset 10 et surtout le 11, il dit encore car le temps est proche, mais à partir du verset 11, ça semble étonnant. Il est dit que celui qui est injuste, eh bien, continue d'être injuste, celui qui est souillé se souille encore. Ce n'est pas un message de Dieu, ça. Enfin, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre. La repentance, normalement, c'est un retour, il y a une espérance, il y a... Et là, il semble que le jugement est déjà là. Le jugement est déjà là. En d'autres termes, Dieu dit dans ce texte, mais puisque vous savez tout ce qu'il faut faire, puisque vous avez entendu, je paraphrase bien sûr, hein, puisque vous avez entendu tellement de fois, et qu'en toute connaissance de cause, vous ne faites pas ce qu'il faut faire, eh bien, je vous laisse continuer. Et ça, c'est le jugement de Dieu. Quand Dieu nous parle, même des fois sévère, c'est une marque de son amour. Mais quand Dieu ne nous parle plus, il dit, ben maintenant, allez-y, faites ce que vous voulez, ça veut dire que le cœur est tellement endurci qu'il ne pourra pas revenir. Alors, je précise que nous ne sommes pas encore dans ces temps-là. Et ce matin, il y a la possibilité de se repentir. Béni soit le Seigneur, la porte de l'arche, elle est encore ouverte. Mais ces temps peuvent arriver rapidement. Et si nous n'avons pas la bonne habitude de nous conformer à l'Écriture, si nous n'avons pas encore la bonne habitude de laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs, eh bien nos cœurs s'endurcissent. Vous savez, quand on désobéit, quand on regarde la parole, oui, mais moi je vis comme ça. Quand on désobéit, le cœur s'endurcit. Et là, c'est un petit peu le jugement de Dieu, mais ça, c'est juste avant le retour, juste avant l'enlèvement de l'Église. Alors, que nous puissions faire partie de ceux où il est dit que celui qui est saint se sanctifie encore, que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Oui, que Dieu fasse que nous en soyons là. On n'est pas parfaits les uns et les autres, hein. Et si quelqu'un se dit « moi je suis ok, parfait », ben c'est que c'est pas bon. Parce que les uns et les autres, on est humains, on fait des erreurs. Mais il y a la grâce de Dieu qui est là. Il y a la grâce de Dieu, il y a le pardon de Dieu. Il y a, oui, heureusement. Dans le psaume 130, il est dit, en parlant, Dieu parle, et, David pardon, parle, et il dit « mais si tu gardais toutes nos iniquités, si tu te souvenais de toutes nos iniquités, qui subsisterait ? Heureusement que le pardon se trouve auprès de notre Dieu. Heureusement que nous pouvons venir, et ce matin nous pouvons venir auprès de Dieu, il est celui qui nous pardonne. Ce n'est pas encore ce temps-là, mais il arrive rapidement ce temps-là. Là où les versets que nous avons lus, ça arrive rapidement. Mais nous n'en sommes pas encore là. Ce matin, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons encore nous repentir et nous conformer à l'Écriture. Il encourage, d'un côté, il y a le jugement de Dieu. Et ça, c'est ce qui se passera. Ça se passera exactement comme ça, que quelqu'un ne dise pas, oui, mais quand Jésus sera revenu, que je verrai les chrétiens partir, ou je ne les verrai pas, mais je ne les trouverai plus, et là je me repentirai. Non, c'est fini là. Il y a le jugement de Dieu pour tous ceux qui n'ont pas cru. D'ailleurs, dans 1 Pierre, je crois, au chapitre 4, il est dit, le jugement va commencer par la maison de Dieu, et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie ou le pécheur, en tous les cas, ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, que deviendront-ils ? Que Dieu fasse, qu'on dise Seigneur, Ta parole est la vérité. Seigneur, ta parole a autorité. Seigneur, je veux prendre au sérieux ce que tu dis parce que, Seigneur, c'est toi qui parles. Je veux conformer ma vie à l'Écriture. C'est pas facile, mais le Saint-Esprit nous aide. Seigneur, je trébuche des fois, je me trompe, mais il y a la grâce de Dieu et le pardon de Dieu se trouve auprès de toi. Béni soit le Seigneur, que nous ayons cette attitude de cœur et que nous puissions nous préparer pour son prochain retour. En tous les cas, il exhorte ceux qui marchent fidèlement, humblement, mais fidèlement, qui veulent aller de l'avant. Eh bien, continuez, nous dit le Seigneur, persévérez, malgré les luttes et les combats, tenez bon, voici, je viens bientôt. Et vous savez, le retour du Seigneur, ça a plusieurs significations, nous le verrons dans les derniers versets, mais c'est quand même un soupir de nos cœurs. Est-ce que vous avez envie de voir Jésus tel qu'il est? Ah ouais. On le connaîtra comme on a été connu. C'est quelque chose de grandiose. Alors, mais il y a aussi le sens de délivrance. Quand Jésus va revenir, il va nous délivrer. Parce que nous sommes soumis, comme je l'ai déjà dit, en étant sur la terre, à des souffrances, à des persécutions, à des maladies, à des deuils. Allez, il y a tellement de choses. Il y a de la joie aussi d'être avec le Seigneur, mais il y a tout ça aussi. Et le Seigneur vient pour nous libérer. Il revient. Alors il y a ce célèbre général américain, bon, je passerai les noms, mais qui un jour, un peuple opprimé, leur a dit « Je reviendrai ». Un peuple qui était opprimé par une autre nation qui les opprimait, il leur a dit « Je reviendrai ». 2 ans après, il est revenu avec toute son armée et il a libéré ce peuple de l'oppresseur. Il est revenu. Il avait promis de revenir, il est revenu. Mais Jésus, c'est encore beaucoup plus. Jésus nous a promis de revenir et de nous prendre avec lui. Et dans ce ciel de gloire, nous savons qu'il n'y a plus ni deuil, ni maladie, ni souffrance. Il n'y a plus rien de tout ça. En fait, c'est notre espérance, notre foi, elle est basée, bon, il y a quelques années sur la terre, mais notre foi, elle est basée en Christ pour l'éternité, dans son ciel de gloire. Nous vivons là les arts de l'esprit, nous vivons quelques années ici, quelques dizaines d'années, mais la réalité de notre salut s'accomplira quand nous aurons les corps glorifiés, que nous serons avec lui dans le ciel, son ciel de gloire. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, délivré de toute souffrance. Alors la description du ciel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous l'avons un petit peu dans le chapitre 5, le chapitre 4, le chapitre 21. Bon, il y a bien des chapitres qui nous montrent un petit peu du ciel, mais on ne peut pas écrire. D'ailleurs, Jean dira toujours « c'était comme ». Il ne dit pas « voilà, c'est ça ». Mais il dira « c'était comme » dans les descriptions. On ne peut pas comprendre le ciel, on est tellement limité. Mais c'est beau de savoir quelques aspects déjà de ce ciel de gloire, mais ce qu'il faut, c'est y aller. On pourrait décrire, ah ouais, mais il faut y aller. Et vous savez, y aller, c'est pas si simple que ça. Hein. Il dit, si le juste se sauve avec peine. Et dans la deuxième épître de Pierre, il est dit, eh bien que l'entrée dans le séjour de Dieu, dans le ciel, se fera par beaucoup de tribulations. Quand on regarde en arrière, combien ont abandonné la foi? Combien ont abandonné la foi? Est-ce qu'ils étaient... est-ce qu'on était on est meilleur qu'eux? Non. Mais tant qu'on reste confiant dans le Seigneur, il va nous garder. Mais le jour où d'autres choses vont être plus importantes que notre foi en Christ, eh bien, on ne tiendra pas, parce que la nature humaine ne peut pas. Mais le Seigneur veut, eh bien, que nous allions dans le ciel avec lui. Alors, quand nous regardons l'Église des derniers temps, dans les 7 églises de l'Apocalypse, les églises d'Asie qui correspondent, bon, c'est celle de Laodicée. Vous savez, le problème de Laodicée, c'était l'orgueil qui amène à l'illusion. Et il disait, mais nous, on est parfaits. Est-ce que vous connaissez une église parfaite? Mais eux, ils le disaient. Nous, on est OK, c'est bon, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Est-ce qu'un chrétien peut dire, je n'ai besoin de rien? Moi, j'ai besoin de Christ. J'ai besoin du secours du Saint-Esprit, j'ai besoin de sa grâce, j'ai besoin de son pardon, j'ai besoin de sa vie en moi. Eux, ils ont dit, je n'ai besoin de rien. Mais Jésus dit, parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, malheureux et nu. Voilà la réalité. Alors on peut penser que, mais la réalité elle est là. Et à Apocalypse 3,19, Jésus dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Et donc du zèle et repens-toi. Ça c'est l'amour de Dieu. Il vient dans une église. Vous savez, cette église de Laodicée, par leur orgueil, leur suffisance, leur illusion, ils ont poussé le Seigneur jusqu'à la porte. Et le Seigneur était à l'extérieur. Vous allez me dire, mais est-ce qu'on peut faire le culte, la louange, est-ce qu'on peut faire des œuvres sans que le Seigneur y soit? Ben oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pas un automatisme, hein. Mais le Seigneur se trouve là où il y a des cœurs humbles qui ont besoin de lui. Jésus cherche des gens qui ont besoin de lui, qui ont besoin d'être sauvés, qui ont besoin, qui reconnaissent leurs besoins. Heureux les pauvres en esprit. Heureux, dira Jésus. Et cette église-là avait mis Jésus à la porte petit à petit. Alors, l'heure est avancée. Mais Jésus, dans son grand amour, eh bien, vient appeler son Église à revenir à lui, à ce qu'il y ait un réveil de conscience, à se repentir, à laisser le Saint-Esprit agir et nous convaincre. Nous convaincre. En tant que chrétien, j'ai besoin que le Saint-Esprit me convainc. Pas seulement celui qui est pécheur au milieu de nous et qui a besoin d'être convaincu de péché, de justice et de jugement, mais en tant que chrétien, j'ai besoin que le Saint-Esprit me convainque. Vous savez, on a nos pensées à nous, mais elles ne sont pas les pensées de Dieu. Nous, on pense que, mais le Saint-Esprit nous éclaire sur la réalité des choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Que Dieu nous aide. Alors ce matin, il est là, car insensiblement, bien le Seigneur était à la porte. Voici, je viens bientôt. C'est la deuxième fois dans ce texte que Jésus dit, voici, je viens bientôt avec ma rétribution, pour rendre à chacun selon son œuvre. Et là, je pense à 1 Corinthiens 3, où Paul dira que le fondement, c'est Jésus, mais prenez garde à la manière dont vous bâtissez dessus. Certains bâtissent avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, et d'autres bâtissent avec du foin, du chaume, de la paille. Il dit, mais le feu révélera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et là, Jésus dit, je viens avec ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Est-ce que nous bâtissons sur ce roc avec le Seigneur mes pensées, ma vision, ma justice propre, ça ne tiendra pas au feu et bien du jugement de Dieu, car Christ a été fait pour nous, et ça il faut qu'on le grave dans notre cœur, Christ a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Vous rendez compte, Jésus est venu dans cette terre de misère, il a payé le prix pour que ce ne soit pas notre justice qui est comme un vêtement sale aux yeux de Dieu, mais que ce soit sa justice qui nous soit imputée. C'est beau. Merci Seigneur pour sa grâce. Merci Seigneur parce que nous n'irons pas au ciel parce que nous avons fait ce que nous pensions être bien, mais nous irons au ciel parce que nous avons la foi en Christ. Alors, voici. Comment Jésus se présente? Il y a l'image qui nous parle, l'ange qui parle, pardon, mais c'est Jésus lui-même qui parle. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Jésus est venu une première fois comme un agneau, mais il revient comme le lion de Juda. Il vient en roi, il vient pour régner. Ce n'est pas le Jésus qui est venu la première fois, qui s'est laissé crucifier, c'était la volonté de Dieu. Mais Jésus vient maintenant, resplendissant de gloire. Il vient comme celui qui doit régner. Et rien ne résistera. Et il dit même que il détruira Satan avec le souffle de sa bouche. J'aime cette expression. Il détruira, dans 2 Thessaloniciens 2, il détruira le diable par le souffle, Satan par le souffle de sa bouche. Il lui en faut pas beaucoup au Seigneur pour détruire celui qui nous fait tellement souffrir. Celui qui veut détruire, celui qui veut diviser, celui qui veut écarter, celui qui essaie de détruire les familles, essaie d'éloigner les enfants. Enfin, Jésus, le souffle de sa bouche et il le détruira. Que Dieu soit béni pour notre Sauveur. Il est fort, il est puissant et il vient dans toute sa gloire. Alors il était au début de l'histoire de l'humanité, le Seigneur, et il sera à la conclusion, à la fin de cette histoire des hommes sur la terre. Parce que l'histoire des hommes sur la terre va se conclure là, dans ce que nous avons vu. Mais c'est juste un changement de royaume. Nous continuerons à vivre avec le Seigneur pour toujours. Et bon, bien sûr aussi, ça c'est la Bible qui en parle, hein, ceux qui n'auront pas cru, qui n'auront pas obéi au Seigneur, bien ils vivront aussi éternellement, mais ça sera difficile. Hein. Nous savons qu'ils seront loin de Dieu pour l'éternité, dans des remords, dans des souffrances terribles. Alors j'espère que personne n'ira dans ce lieu, au milieu de nous, mais que nous puissions répondre à l'invitation, à l'appel du Seigneur et nous tourner vers lui. Alors au verset 16, et je vais conclure, il dit « Moi, Jésus ». Alors nous voyons dans l'Apocalypse Jésus resplendissant de gloire, Jésus dans sa divinité, dans sa sainteté, nous le voyons marchant au milieu des églises, resplendissant. Et là, il dit « Moi, Jésus ». Moi, Jésus, c'est l'histoire du salut, c'est l'histoire de l'Église, du Fils de l'homme qui est venu. Et quand l'Église entend le nom de Jésus, elle tressaille de joie. Jésus, c'est le Sauveur. Jésus, c'est celui qui nous a pardonné, c'est celui qui nous a purifié, qui nous a délivré. Quand on nous dit Jésus, si on me dit l'Alpha arrive, l'Oméga, oui, c'est bien, c'est des titres glorieux. Le Lion de Juda, oui, mais si on me dit Jésus, reviens, ça résonne. Ça résonne parce que Jésus, c'est celui qui est venu nous chercher dans la boue du péché, dans les griffes du malin et qui nous a retirés. Donc il y a un nom qui résonne, un nom qui est identifiable pour l'Église, c'est Jésus. Et Jésus revient bientôt, moi Jésus. À l'évocation de ce nom, l'Église tressaille de joie. Oui, aujourd'hui, Jésus est resplendissant de gloire, tout puissant, glorieux, mais c'est le Jésus, fils de l'homme, fils de Dieu en même temps, qui est venu dans son humanité et qui est mort à la croix, c'est lui qui nous donne accès au ciel. Le rejeton de David, l'étoile brillante du matin, l'espérance. Il y a le tout accompli ce matin, il y a le tout est possible ce matin, tout est possible pour chacun d'entre nous. Est-ce que c'est possible que je sois guéri ? Oui. Est-ce que c'est possible que quelqu'un se repente au milieu de nous et soit sauvé ? Oui, c'est possible, parce que Jésus a tout accompli. Là, c'est de notre côté. Si un jour on se retrouve loin de Dieu pour l'éternité, ça ne sera pas une malchance, ce sera un choix. Parce que le Seigneur pourra nous rappeler tous les moments où nous avons entendu la parole, l'appel du Seigneur. Il pourra nous rappeler tout ce que nous avons entendu et nous avons fait fi, nous avons peut-être bouché nos oreilles, mais le Seigneur nous rappellera toutes les occasions que nous avons eues pour nous tourner vers lui et être sauvés. Il nous le rappellera. Combien de messages avons-nous entendus? Combien de prédicateurs différents? Combien peut-être sur Internet? Combien de fois avons-nous lu la Bible? Quelqu'un pourrait dire, mais j'en sais assez. Et je sais tout ce qu'il faut faire pour être sauvé. Faites-le ce matin. Les jeunes, peut-être ados, faites-le. Faites-le, parce que relisez ce texte, il ne faut pas tomber du mauvais côté, là. Parce que l'éternité, c'est quand même long. Alors Jésus, ce matin, est encore là pour nous appeler au salut, plusieurs, pour nous appeler, nous, chrétiens, à revenir pleinement à lui, à la repentance, à un réveil de conscience, à élever Jésus dans notre vie, au milieu de nous, dans nos familles. Oui, il nous appelle à cela, parce que nous sommes destinés à cela. Notre vie doit glorifier le Seigneur, doit élever le nom de Jésus. C'est comme ça, on a été sauvés pour ça. Je n'ai pas été sauvé pour avoir des avantages, être bien sur la terre, tout ça c'est des conséquences. Mais vous savez, quand on dit, voilà, le Seigneur veut que nous soyons heureux, etc. Oui, mais alors je me dis, mais certains chrétiens dans des pays où ils sont persécutés, qu'est-ce qu'ils ont eux? Est-ce que le Seigneur serait injuste? Est-ce qu'il dirait, vous, en France, en Europe, vous êtes appelés pour être bien matériellement, que vous soyez heureux, que vous ayez tout, que vous soyez en bonne santé? Et les autres, non. Le but premier, c'est de glorifier Jésus. On bénit Dieu pour la liberté que nous avons dans notre pays. Mais un jour, elle peut être aussi, cette liberté, même dans notre pays. Alors il faut se préparer, il faut se préparer. Dieu ne nous a pas appelés à jouir d'un bonheur sur la terre, mais Dieu nous a appelés à glorifier le Seigneur et à se réjouir en lui, à se réjouir dans le Seigneur. Ce n'est pas ce que je possède qui doit me rendre heureux, c'est Jésus. Jésus, mon Sauveur, les temps décrits dans ces versets sont là, ils arrivent bientôt. Et là, vous savez, tout sera révélé. Tout sera révélé. Dieu nous aura donné du temps. Dieu nous aura donné des années, peut-être des dizaines d'années pour certains, pour que nous puissions conformer nos vies, marcher avec le Seigneur. Dieu nous aura donné tout ce temps que Dieu nous aura donné, se retrouvera à ce moment-là, ça se révélera. Est-ce que j'ai utilisé, est-ce que j'ai bien géré les ressources que Dieu m'a données? Parce que vous savez que Dieu nous a tout donné pour être vainqueurs, pour marcher avec lui, pour avoir la foi, pour traverser les tempêtes, pour traverser même la persécution. Dieu nous a tout donné. Il est le plus fort. Il est le plus grand. Et il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que Dieu nous aide à prendre au sérieux ces quelques paroles où tout sera révélé, mais que jamais, nous en arrivons où le Seigneur dit, tu veux vivre loin de moi dans l'injustice, continue. Là, c'est... Bon, on n'y est pas encore. Et je bénis Dieu parce que la porte de l'arche est encore ouverte. Ça peut s'accélérer rapide et on se retrouve à ce moment-là. Ça peut s'accélérer très vite. Oui, je viens bientôt. Que Dieu nous garde d'endurcir nos cœurs et que le Saint-Esprit ait toujours un accès dans notre cœur. Et que la parole ait toujours son autorité dans notre vie. Que Dieu soit béni. Va prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as tout dit. Tu ne nous as rien caché, Seigneur. Et c'est un effet de ton amour, un effet de ta grâce. Seigneur, que tout soit révélé dans ta parole, tout ce dont nous devons savoir. Le reste, ça t'appartient. Mais tout ce que l'homme doit savoir est révélé dans ta parole. Seigneur, nous te louons, quel amour immense, quelle patience tu as à notre égard, à mon égard, à l'égard de chacun d'entre nous, à l'égard de l'Église, des Églises. Quelle patience, Seigneur. Mais ta patience, c'est notre salut. Seigneur, nous te louons ce matin de tout notre cœur. Nous exaltons ton nom. Oui, Seigneur, tu reviens bientôt. Et comme ce général avait promis les revenus, bien toi, tu nous as promis encore plus, Seigneur, mais tu reviendras au temps marqué. Seigneur, nous te bénissons, bénis chacun d'entre nous, bénis les familles que nous représentons, bénis les enfants, Seigneur, sauve ceux qui ne t'appartiennent pas encore, Seigneur, nous te prions pour les enfants, pour ceux qui se sont éloignés, Seigneur, nous te prions qu'ils reviennent à toi, alors que nous sommes en train de te prier pour nos familles, Seigneur, visite-les par le Saint-Esprit, nous t'en prions, Père, au nom de Jésus, et sauve ceux qui sont encore dans les ténèbres, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.